Maître Odiga, tout ce que vous me dites là est très gentil, mais ne m'appelez pas Maître Odiga, mademoiselle. Vous ne me demandez pourtant pas de vous appeler par votre petit nom. J'en serais heureux. Cela prouverait que vous exaucez mes vœux. Je ne peux les exaucer si vite, ni les repousser, cher monsieur. Voilà 4 jours que je suis revenu, et nous nous connaissons à peine. Quand estimez-vous, mademoiselle, que vous me connaîtrez assez pour me donner une réponse? 4 ans? 3 ans? Est-ce trop?
Il eut un geste navré. Il comprenait que jamais il n'obtiendrait la moindre promesse de cette belle demoiselle qui eût si bien atténué pour lui les rigueurs de l'existence de Volnic. L'entretien était fini. Maître Odiga prit congé de la jeune fille et, l'air digne et vexé, quitta le château. Antonine resta seule. Elle fit le tour des ruines et se promena dans le parc et dans les bois. Elle marchait allègrement, et son sourire habituel relevait les coins de sa bouche. Elle était vêtue d'une robe neuve et parée de sa grande capeline de paille. De temps à autre, elle chantonnait. Puis elle cueillit des fleurs sauvages qu'elle rapporta au marquis d'Erlemont. Il l'attendait sur le banc de pierre, où ils aimaient s'asseoir, au bout de la terrasse.
« Comme tu es jolie! Plus de traces de tes fatigues et de tes émotions, hein? Et cependant, rien ne t'a été épargné. »
Ne causons plus de cela, parrain. C'est une vieille histoire dont je ne me souviens plus.
Alors, tu es tout à fait heureuse?
Tout à fait heureuse, parrain, puisque je suis avec vous et dans ce château que j'aime.
Un château qui ne nous appartient pas. Et que nous quitterons demain.
Qui vous appartient et que nous ne quitterons pas?
Il se moqua.
Ainsi, tu comptes toujours sur cet individu?
Plus que jamais.
Eh bien, pas moi.
Vous y comptez tellement, parrain, que voilà 4 fois que vous me dites n'y pas compter.
D'Erlemont se croisa les bras.
Alors, tu t'imagines comme ça qu'il viendra à un rendez-vous fixé vaguement il y a bientôt 1 mois et après que tant d'événements se sont produits?
C'est aujourd'hui le 3 juillet. Il a confirmé ce rendez-vous dans le billet qu'il m'a fait passer à la préfecture.
Simple promesse.
Toutes ces promesses, il les tient.
Donc, à 4 heures?
À 4 heures. Il sera là, c'est-à-dire dans 20 minutes.
D'Erlemont hocha la tête.
Au fond, veux-tu que je te dise? Eh bien, moi aussi, je l'espère. Quelle drôle de chose, la confiance! Et la confiance en qui? En une sorte d'aventurier qui s'occupe de mes affaires sans que je lui ai jamais rien demandé, et qui s'en occupe de la manière la plus insolite, en ameutant contre lui toute la police. Enfin quoi, tu as lu les journaux ces jours-ci? Que disent-ils? C'est que mon locataire, M. Raoul, l'amant de cette mystérieuse Clara, qui te ressemble, paraît-il, n'est autre qu'Arsène Lupin. La police le nie. Mais la police, qui longtemps a vu partout Lupin, ne veut plus, par crainte du ridicule, le voir nulle part. Et voilà notre collaborateur.
Nous avons confiance dans l'homme qui est venu ici, parrain. On ne peut pas ne pas avoir confiance en celui-là.
Évidemment, c'est un rude type, je l'avoue. Et j'avoue qu'il m'a laissé un tel souvenir que...
Un tel souvenir que vous espérez bien le revoir et connaître par lui la vérité qui vous échappe. Qu'importe qu'il s'appelle Raoul ou Arsène Lupin, s'il comble tous nos vœux.
Elle s'était animée. Il la regarda avec surprise. Elle avait des joues toutes roses et des yeux brillants.
Tu ne te fâcheras pas, Antonine ?
Non, parrain.
Eh bien, je me demande si maître Odiga n'aurait pas été mieux accueilli si les circonstances n'avaient pas amené le sieur Raoul.
Il n'acheva point. Les joues roses d'Antonine étaient devenues rouges, et ses yeux ne savaient plus où se poser.
« Oh, parrain, comme vous avez de mauvaises idées !»
Il se leva. Un coup léger marqua les 5 minutes d'avant 4 heures à l'église du village. Suivi d'Antonine, il longea la façade du château et se posta à l'angle droit, d'où l'on apercevait la porte massive et cloutée de fer au bout de la voûte basse creusée sous la tour d'entrée.
« C'est là qu'il sonnera. As-tu lu Monte Cristo ? Et te rappelles-tu la façon dont il est présenté dans le roman ? Quelques personnes qui l'ont connu aux 4 coins du monde l'attendent pour déjeuner. Plusieurs mois auparavant, il a promis qu'il serait là à midi. Et l'amphitryon affirme que, malgré les incertitudes du voyage, il arrivera à l'heure exacte. Midi sonne. Au dernier coup, le maître d'hôtel annonce « Monsieur le comte de Monte Cristo, nous attendons avec la même foi et la même anxiété. »
Le timbre retentit sous la voûte. La gardienne descendit les marches du perron.
« Serait-ce le comte de Monte Cristo ? Il serait en avance, ce qui n'est pas plus élégant que d'être en retard. »
La porte fut ouverte. Ce n'était pas le visiteur prévu, mais un autre, dont l'apparition les confondit. Gorgeret.
« Oh, parrain, malgré tout, j'ai peur de cet homme. Que vient-il faire ici ? J'ai peur !»
Jean d'Erlemont semblait aussi surpris désagréablement.
« Pour qui ? Pour toi ? Pour moi ? Rien de tout cela ne nous concerne. »
Elle ne répondit pas. L'inspecteur, après avoir parlementé avec la gardienne, venait d'apercevoir le marquis et s'avançait aussitôt vers lui. Il portait à la main, en guise de canne, un énorme gourdin à pommeau de fer. Il était gros, lourd, vulgaire, puissant d'encolure. Mais son âpre figure habituelle s'efforçait d'être aimable. À l'église, les 4 coups tintèrent.
« Puis-je solliciter de vous, monsieur le marquis, la faveur d'un entretien ?»«
À quel propos ?»«
À propos de notre affaire. »«
Quelle affaire ?
Tout a été dit là-dessus entre nous. » Et l'inqualifiable conduite que vous avez eue envers ma filleule ne me donne guère envie de continuer nos relations. Tout n'a pas été dit entre nous, et nos relations ne sont pas terminées. Je vous l'avais annoncé en présence du directeur de la police judiciaire. J'aurais besoin de quelques renseignements.
Le marquis d'Erlemont se tourna vers la gardienne, qui se tenait 30 mètres plus loin, sous la voûte, et lui cria...
« Vous fermerez la porte. Si l'on frappe, vous n'ouvrirez pas. À personne, n'est-ce pas ? D'ailleurs, donnez-moi la clé. »
Antonine lui serra la main pour l'approuver. La porte close, c'était le choc impossible entre Gorgeret et Raoul, au cas où celui-ci se fût présenté. La gardienne vint remettre la clé au marquis et s'en retourna. L'inspecteur sourit.
« Je vois, monsieur le marquis, que vous comptiez sur une autre visite que la mienne, et que vous seriez désireux d'y mettre obstacle. Peut-être est-il trop tard. »«
Je suis dans un état d'esprit, monsieur, où tous les visiteurs me paraissent des intrus. »«
À commencer par moi. »«
À commencer par vous. Aussi, finissons-en rapidement, et veuillez me suivre dans mon bureau. »
Il s'en revint à travers la cour jusqu'au château, accompagné d'Antonine et de l'inspecteur. Mais comme ils débouchaient à l'angle, ils avisèrent un monsieur qui était assis sur le banc de la terrasse et qui fumait une cigarette. La stupeur du marquis et d'Antonine fut telle qu'ils s'arrêtèrent. Gorgeret s'arrêta comme eux, mais très calme, lui. Connaissait-il la présence de Raoul dans l'enceinte des murs? Raoul, en les apercevant, jeta sa cigarette, se leva et dit joyeusement au marquis « Je vous ferai remarquer, monsieur, que le rendez-vous était sur le banc. Au dernier coup de 4 heures, je m'y asseyais. » Très élégant, dans son complet de voyage clair, la taille bien prise, la figure amusée, vraiment sympathique, il avait enlevé son chapeau et s'inclinait profondément devant Antonine. « Je m'excuse encore, mademoiselle. Je porte une lourde part des tourments que vous avez dû subir grâce à quelques malotrus. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur, puisque l'intérêt du marquis d'Erlemont guida seul ma conduite. » De Gorgeret, pas un mot. On eût dit que Raoul ne l'avait pas vu et que la silhouette massive de l'inspecteur demeurait invisible pour lui. Gorgeret ne broncha pas. Lui aussi, plus lourdement, mais avec autant de tranquillité, il gardait l'attitude nonchalante de quelqu'un à qui la situation paraît tout à fait normale. Il attendait. Le marquis d'Erlemont et Antonine attendaient également. Au fond, la pièce qui se jouait n'avait qu'un acteur, Raoul. Les autres n'ayant qu'à prêter l'oreille, à regarder et à patienter, jusqu'à ce qu'il les pria d'entrer en scène. Tout cela n'était pas pour lui déplaire. Il aimait se pavaner et discourir, surtout aux instants de grand péril, et lorsque le dernier acte des pièces montées par lui eut exigé, conformément aux règles ordinaires, la concision, la sobriété des gestes. Se promenant, les mains au dos, il prenait un air tour à tour avantageux, pensif, dégagé, sombre ou rayonnant. À la fin, il s'adressa au marquis. « J'hésitais à parler, monsieur. Il me semblait en effet que notre rendez-vous étant privé, la présence de personnes étrangères ne nous permettait pas de traiter en toute liberté d'esprit les questions pour lesquelles nous sommes réunis. À la réflexion, il n'en est pas ainsi. Ce que nous avons à dire peut être dit devant n'importe qui, fût-ce même devant quelques représentants subalternes de cette police qui vous suspecte vous-même, monsieur, et qui se permet de vous demander des comptes. Je vais donc établir la situation telle qu'elle est, sans autre but que la vérité et la justice. Les honnêtes gens ont le droit de porter la tête haute. » Il s'interrompit. Quelle que fût la gravité de l'heure, si inquiète et si désemparée que se sentit Antonine, elle dut serrer la bouche pour ne pas sourire. Il y avait dans l'intonation pompeuse de Raoul, dans le clignement imperceptible de ses yeux, dans le retroussement de sa lèvre, dans un certain balancement de son buste sur ses hanches, quelque chose de comique qui écartait toute interprétation maussade des événements. Et quelle sécurité! Quelle désinvolture en face du danger! On devinait que pas un mot n'était prononcé qui ne fût utile, et que tous, au contraire, visaient à troubler l'ennemi. Nous n'avons pas à nous occuper de ce qui s'est passé récemment. La double existence de Clara la Blonde et d'Antonine Gautier, leurs ressemblances, leurs actes, les actes du grand Paul, les actes du sieur Raoul, le conflit qui à un moment a opposé ce parfait gentilhomme au policier Gorgeret, la supériorité écrasante du premier sur le second, autant de questions définitivement réglées, sur lesquelles aucune puissance au monde ne peut revenir. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le drame de Volnic, c'est la mort d'Elisabeth Ornain, et c'est la récupération de votre fortune, monsieur. Vous ne m'en voudrez pas de ce préambule un peu long. Il nous permettra de résoudre ces divers problèmes en quelques phrases brèves. et ainsi vous sera épargné l'interrogatoire humiliant d'un individu quelconque. » Le marquis profita d'une pause pour objecter.
« Je n'ai à subir aucun interrogatoire.
J'ai la certitude, monsieur, que la justice, qui n'a jamais rien compris au drame de Volnic, essaie de se retourner vers vous, et, sans savoir où elle va, désire certaines précisions sur votre rôle dans ce drame.
« Mais mon rôle dans le drame est nul. »
« J'en suis persuadé. Mais alors, la justice se demande pourquoi vous n'avez pas déclaré vos relations avec Elisabeth Ornain. Et pourquoi vous avez acheté secrètement le château de Volnic. Et pourquoi vous y reveniez parfois la nuit. En particulier, et d'après certaines preuves impressionnantes, on vous accuse... » Le marquis tressauta.
« On m'accuse? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui donc m'accuse? Et de quoi ?»
Il apostrophait Raoul avec irritation, comme s'il voyait soudain en celui-ci un adversaire sur le point de l'attaquer.
« Encore une fois, qui m'accuse ?»
Valtex.
« Ce bandit ?»
Ce bandit a réuni contre vous un dossier redoutable dont il fera certainement part à la justice, aussitôt convalescent. Antonine était pâle, anxieuse. Gorgeret avait quitté son masque impassible. Il écoutait avidement. Le marquis d'Erlemont s'approcha de Raoul.
« Parlez ! Je vous somme de parler ! De quoi m'accuse ce misérable ?»
D'avoir tué Elisabeth Ornain. Un silence prolongea ces mots terribles. Mais le visage du marquis se détendait, et il eut un rire où ne se mêlait la moindre gêne.
« Expliquez-vous. »
« Vous connaissiez, monsieur, à cette époque, un berger du pays, le père Gassiou, une sorte d'innocent un peu fou, avec qui vous alliez souvent bavarder durant vos séjours chez monsieur et madame de Jouvel. Or, le père Gassiou avait cette particularité d'être prodigieusement adroit. Il tuait du gibier à coups de pierre lancés par sa fronde. Et tout s'est passé comme si ce demi-fou, soudoyé par vous, avait tué Elisabeth Ornain d'un coup de pierre pendant que celle-ci, sur votre demande, chantait dans les ruines.
« Mais c'est absurde ! Il m'aurait fallu un motif, sacrebleu ! Pourquoi aurais-je fait tuer cette femme que j'aimais ?»«
Pour garder ses bijoux, qu'elle vous avait confiés au moment de chanter. »«
Ces bijoux étaient faux !»
Ils étaient vrais. Voilà ce qu'il y a de plus obscur dans votre conduite, monsieur. Elisabeth Ornain les avait reçus d'un milliardaire d'Argentine. Cette fois, le marquis d'Erlemont n'y tint plus. Il se dressa, hors de lui.
« Mensonge ! Elisabeth n'a jamais aimé personne avant moi. Et c'est cette femme que j'aurais fait tuer ? Cette femme que j'aimais et que je n'ai jamais oubliée ? Quoi ? N'est-ce pas pour elle, pour sa mémoire, que j'ai acheté ce château, afin que l'endroit où elle était morte n'appartient à personne d'autre qu'à moi ? Et si j'y revenais de temps à autre, n'était-ce pas pour prier sur ses ruines ? Si je l'avais tuée, aurais-je entretenu en moi l'affreux souvenir de mon crime ? Voyons, une telle accusation est monstrueuse !
Bravo, monsieur ! Oh ! Ah, si vous m'aviez répondu avec cet entrain il y a 25 jours, que d'événements pénibles nous aurions évités. Encore une fois, bravo, monsieur. Et soyez sûr que, personnellement, je n'ai pas pris un instant au sérieux les accusations de l'abominable Valtex, ni le dossier de mensonges qu'il a réuni. Gassiou, le coup de fronde, autant de blagues. Tout cela n'est que chantage, mais... chantage habile, qui pourrait peser terriblement sur vous, et contre lequel nous devons prendre toutes les précautions. En pareil cas, un seul remède. La vérité. L'absolue, l'implacable vérité, afin que nous puissions l'opposer dès aujourd'hui à la justice.
La vérité, je l'ignore.
Je l'ignore aussi. Mais, au point où nous en sommes, elle ne dépend plus, pour moi, que de la netteté de vos réponses. Oui ou non, les bijoux disparus étaient-ils vrais? Le marquis n'hésita plus. Il fut catégorique.
Ils étaient vrais.
Et ils vous appartenaient, n'est-ce pas? Vous avez fait faire par une agence des recherches destinées à un héritage qu'on vous avait dérobé. Me souvenant que la fortune des Herlemont provenait d'un aïeul qui avait vécu aux Indes avec le titre de Nabab, je suppose qu'il avait converti ses immenses richesses en pierres précieuses de toute beauté. En est-il ainsi?
Oui.
Je suppose également que si les héritiers du Nabab Herlemont n'ont jamais parlé des colliers formés avec ces pierres précieuses, c'est pour n'avoir pas à payer les droits de succession.
Je le suppose.
Et sans doute, vous les aviez prêtés à Elisabeth Ornain.
Oui, aussitôt divorcée, elle devait être ma femme. Par fierté, par amour, je me plaisais à les voir sur elle.
Elle les savait, véritable?
Oui.
Et toutes les pierres qu'elle portait ce jour-là vous appartenaient, sans exception?
Non. Il y avait en outre un rang de perles fines que je lui avais donné d'ores et déjà, en toute propriété et d'une grande valeur.
Que vous lui avez offerte de la main à la main?
Que je lui ai fait envoyer par un bijoutier.
Raoul hocha la tête. Vous voyez, monsieur, à quel point Valtex a pu prendre barre sur vous. Que Valtex ait recueilli un document prouvant que ce rang de perles appartenait à sa tante. De quel poids serait un tel document? Il ne s'agit plus maintenant que de découvrir le collier de perles et les autres colliers. Quelques mots encore. Le jour du drame, vous avez conduit Elisabeth Ornain jusqu'en bas des pentes qui montent aux ruines.
Un peu plus haut, même.
Oui, jusqu'à l'allée horizontale d'Okuba que l'on aperçoit d'ici.
En effet.
Et vous êtes restés invisibles tous deux durant un espace de temps plus long que l'espace de temps que l'on pouvait escompter.
En effet. Je n'avais pas eu l'occasion de voir Elisabeth seule depuis 2 semaines, et nous nous sommes longuement embrassés.
Ensuite?
Ensuite, comme elle avait l'intention de chanter certains morceaux où il lui semblait que son habillement et sa mise devaient rester parfaitement simples, elle voulut me confier tous ses colliers. Je ne fus pas de son avis. Elisabeth n'insista pas et elle me regarda partir. Quand je tournai à l'extrémité de l'avenue des Okubas, elle était encore immobile.
Avait-elle encore les colliers quand elle arriva à la terrasse supérieure des ruines?
Je n'en sais rien, personnellement. Et c'est un point sur lequel aucun des invités ne put faire une déclaration précise. On ne remarqua l'absence des colliers qu'après le drame.
Soit. Mais le dossier de Valtex contient des témoignages contraires. Au moment du drame, Elisabeth Ornain n'avait plus les bijoux.
Ils auraient donc été volés entre l'avenue des Okubas et la terrasse supérieure.
Il y eut un silence, et Raoul articula lentement, syllabe par syllabe, « Les bijoux n'ont pas été volés. »«
Comment ils n'ont pas été volés? Mais pourquoi Elisabeth Ornain aurait-elle été assassinée ?»«
Elisabeth Ornain n'a pas été assassinée. » C'était la joie de Raoul de procéder ainsi par affirmation sensationnelle. Et cette joie se voyait à une petite flamme qui s'allumait dans ses yeux.
« Enfin quoi ? J'ai vu la plaie. Personne n'a jamais douté qu'un crime ait été commis. Qui l'a commis ?»
Raoul leva le bras et tendit l'index. « Percé. »
« Que signifie ? »
vous me demandez qui a commis le crime. Je vous réponds très sérieusement, Percé. Et maintenant, ayez l'obligeance de m'accompagner jusqu'aux ruines.